France Culture.
L'heure du journal de la rédaction. Bonsoir Julie Paco.
Bonsoir Arnaud, bonsoir à tous. Le pouvoir biélorusse libère une partie de ses opposants. Le prix Nobel de la paix Ales Bialatsky ou encore l'opposante Maria Kolesnikova. En tout, 123 prisonniers politiques ont été graciés par le président Alexandre Loukachenko au moment même où les États-Unis annoncent la levée des sanctions visant le potassium produit en Biélorussie. Nous irons à Odessa, une nouvelle fois ciblée hier par des frappes russes. La nuit dernière, des logements ont été soufflés. Des milliers d'Ukrainiens sont privés d'eau et d'électricité. Nous irons sur la 64, en Haute-Garonne, où les agriculteurs sont en colère, prêts à y passer Noël pour contester la politique d'abattage des troupeaux prônée par le gouvernement face à la dermatose nodulaire contagieuse. Enfin, nous reviendrons sur cette vaste opération policière cette semaine, au cours de laquelle 20 hommes ont été arrêtés, suspectés d'avoir acheté des poupées sexuelles à caractère pédopornographique. 123 femmes et hommes opposants au régime de l'autoritaire président biélorusse Alexandre Loukachenko ont donc été libérés aujourd'hui. Des opposants politiques, des défenseurs des droits de l'homme et des journalistes. Parmi eux, deux figures de l'opposition, le co-lauréat du prix Nobel de la paix 2022, Ales Bialatsky, ainsi que l'opposante Maria Kolesnikova, tous graciés par le dictateur Alexandre Loukachenko, Virginie Pironon, après des pourparlers entre Minsk et Washington.
Les toutes premières retrouvailles et ce cri de joie de Maria Kolesnikova quand après 5 ans de prison, l'opposante tombe dans les bras d'autres prisonniers tout juste libérés, comme Viktor Babariko, ancien candidat à la présidentielle en Biélorussie dont elle a été directrice de campagne, ou son ami et avocat Maxim Znak. Dans le bus qui les conduit en Ukraine, Maria Kolesnikova confie son très grand bonheur de retrouver ce soir la liberté, tout en disant avoir une pensée pour ceux qui sont restés derrière eux. Ils sont encore des centaines de prisonniers politiques en Biélorussie. Pourquoi m'ont-ils jeté en prison ? Confie Viktor Babariko. Pour avoir eu la volonté, dit-il très amaigri, de rendre la vie meilleure dans le pays. Quant au co-lauréat du prix Nobel de la paix, le défenseur des droits de l'homme, Ales Bialatsky, il a été accueilli ce soir sous les applaudissements en Lituanie, à Vilnius. Des libérations qui font suite à une nouvelle visite de l'émissaire américain John Kaul en Biélorussie et à son annonce de lever les sanctions américaines sur le potassium, dont Minsk est un grand producteur. Encouragé par Donald Trump ces derniers mois, l'autoritaire Alexandre Loukachenko a gracié des dizaines de personnes.
Un récit de Virginie Pironon et la majorité des personnes libérées a été transférée en Ukraine. En Ukraine, donc, où des milliers de personnes sont privées d'électricité depuis ce matin, à la suite de nouvelles frappes russes sur plusieurs installations industrielles et énergétiques la nuit dernière. Une douzaine sont endommagées, d'après Volodymyr Zelensky, et ces frappes ont touché notamment Odessa, le plus grand port d'Ukraine. Pas de bilan humain officiel pour le moment, mais il y a au moins plusieurs blessés. Reportage du correspondant de RFI à Odessa, Théo Renaudot.
L'appartement de Boris et Irina a été totalement soufflé par l'explosion d'un drone qui s'est écrasé juste en face de chez eux.
Le drone est tombé dans la cour vers 5 heures. Il s'est écrasé sur l'appartement d'en face. Nos vitres ont été soufflées. Moi, je dormais. On n'a plus de fenêtres. Ça volait de tous les côtés. Les meubles ont été endommagés, les portes intérieures aussi.
Au-delà des morceaux de verre, l'appartement a été aussi endommagé par des éclats de plomb qui proviennent du drone suicide, Boris nous montre.
Dans la façade, vous avez vu ces trous ? C'est à cause de ces petites billes conçues spécialement pour transpercer la peau des humains, pour tuer les gens.
Comment vous vous sentez ce matin ?
On est dans le stress. Je ne comprends pas encore vraiment ce qui s'est passé. Je ne comprends pas encore comment continuer. Et quoi après ? Je ne peux pas encore intégrer ce qui est arrivé.
Boris et Irina font maintenant partie des Ukrainiens qui demandent à leur président de mettre fin à la guerre, quoi qu'il en coûte.
Un reportage à Odessa de Théo Renaudon, RFI pour France Culture. L'émissaire américain Steve Witkoff est à Berlin, lui, pour rencontrer Volodymyr Zelensky et plusieurs dirigeants européens ce week-end, avant un sommet prévu lundi, alors que les États-Unis réclament toujours à Kiev d'importantes concessions territoriales, exigences de la Russie pour mettre un terme à la guerre. contenir la contagion, celle d'abord de la dermatose nodulaire, mais aussi celle de la colère agricole contre l'abattage des troupeaux. C'est ce à quoi s'emploie le gouvernement, alors que les agriculteurs et éleveurs multiplient depuis hier les blocages d'axes routiers et les manifestations devant les préfectures dans le sud-ouest du pays. Plus d'une quinzaine d'actions recensées par les policiers et gendarmes, à qui le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, demande de faire preuve de souplesse et de tact, signe de la fébrilité gouvernementale. Quand la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, doit s'entretenir dans le week-end avec les élus des zones concernées donc par la dermatose nodulaire contagieuse. Mais à Carbonne, en Haute-Garonne, point de départ de la grogne agricole en janvier 2024, Clotilde Jupon, près d'une centaine d'agriculteurs et éleveurs sont toujours mobilisés.
Mais ici, personne ne semble pressé de partir. En cette fin de journée, de plus en plus de monde se rassemble sur la 64. Plusieurs centaines de personnes occupent désormais cette portion d'autoroute. Et c'est un véritable petit village qui s'y est organisé. Entre les colonnes de tracteurs, une cuisine installée avec un brasero, plusieurs friteuses, des barnums. Une table de mixage, vous l'entendez peut-être, est aussi installée. La musique réchauffe l'ambiance. Un immense camion est encore venu décharger des stères de bois tout à l'heure. Et les producteurs du coin aussi se relaient avec des œufs, de la viande, du fromage. Deux remorques pleines à craquer. À midi, ce sont des fétous de cassoulet qui ont été servis sous le soleil. On nous le dit, hein, tout est bien géré, on ne manque de rien. Les agriculteurs sont prêts à et déterminés. Ils peuvent encore rester campés sur leur position plusieurs jours, s'il le faut.
Clotilde Jupon, ici Occitanie. Dans le Doubs, 70 agriculteurs ont manifesté devant l'ancienne permanence parlementaire d'Annie Genevard à Pontarlier, à l'appel de la coordination rurale. La ministre de l'Agriculture a annoncé ce matin donc la vaccination d'un million d'animaux dans les prochaines semaines dans l'espoir de calmer cette colère agricole. Les analyses médicales permettant de détecter une soumission chimique remboursée par l'assurance maladie dans trois régions dès le 1er janvier prochain, l'Île-de-France, les Hauts-de-France et les Pays de la Loire. Le décret a été publié aujourd'hui au journal officiel. Cette expérimentation prévue dans le projet de loi de finances de la Sécurité sociale pour 2025 vise à prendre en charge pendant trois ans sur prescription médicale les examens sanguins et urinaires, ainsi que le prélèvement de cheveux pour détecter les substances impliquées en cas, même si la victime n'a pas porté plainte. Dans deux ans et demi, un rapport d'évaluation permettra au gouvernement de se prononcer sur son éventuelle généralisation. Une vingtaine d'hommes arrêtés en France mercredi pour détention de poupées sexuelles à caractère pédopornographique. Des interpellations qui ont eu lieu simultanément aux quatre coins du pays lors d'une vaste opération policière après des investigations mobilisant 60 enquêteurs supervisés par le parquet de Paris. Ces hommes âgés de 20 à 70 ans sont soupçonnés d'avoir acheté ces poupées sur les plateformes Shein et AliExpress. Bonsoir Flore Caron.
Bonsoir.
Un tiers d'entre eux étaient connus pour des faits de nature pédocriminelle.
Oui, au moins 6 suspects étaient déjà connus pour des faits liés à de la pédocriminalité. Cela va de la consultation d'images pédopornographiques à des atteintes sexuelles sur mineurs. En tout cas pour Martine Brousse, la présidente de l'association La Voix de l'Enfant, ce phénomène de poupées pédopornographiques n'est pas nouveau.
Ces affaires ne remontent pas aujourd'hui. La Voix de l'Enfant avait fait poursuivre Amazon en 2020, vous voyez, et un premier client avait été condamné en 2023. Alors, c'est un phénomène amplifié par les réseaux et les plateformes, bien sûr, par la fabrication qui arrive de l'autre bout du monde. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, leurs pratiques sont mises au grand jour et il était temps que véritablement des mesures soient prises.
Bref, résume la présidente, il ne faut rien lâcher et s'attaquer aussi aux plateformes et aux fabricants. D'ailleurs, le tribunal judiciaire de Paris rendra son jugement le 19 décembre dans cette affaire de vente de poupées pédopornographiques sur le site Shein.
Explication de Flore Caron pour France Culture. La météo de votre dimanche matin avec un temps toujours gris attendu au nord du pays. Ailleurs, le ciel sera ensoleillé après dissipation des brouillards matinaux, notamment en région PACA et en vallée du Rhône. Et les entrées maritimes se dissiperont difficilement sur le Languedoc-Roussillon. Les températures minimales affichent 2 à 7 degrés au réveil, jusqu'à 9 degrés sur le littoral. C'est la fin de ce journal, préparé avec Caroline Beneteau, Nicolas Leroulet à la technique.